Bienvenue à toutes et à tous. Nous nous intéressons ce soir à un fleuve immense et aux habitants qui l'entourent. Un fleuve extravagant, excessif et violent en plein cœur de l'Afrique, son nom le Congo. Il est le 8e fleuve le plus long du monde et le 2e par son débit. Mais c'est sa profondeur surtout qui impressionne, puisqu'il affiche à certains endroits jusqu'à 220 mètres de fond, à tel point qu'on y trouve des poissons typiques des abysses, qui sont parfois propulsés à la surface par des courants si intenses que ces poissons y arrivent quasiment morts du fait de leur brutale décompression. Mais la violence de ce fleuve le rend dangereux et signe également son immense potentiel en termes d'hydroélectricité. Cet or bleu qui pourrait illuminer l'Afrique, mais tarde cependant à se déverser sur les riverains du fleuve, lesquels restent pour beaucoup dans la misère. Nous embarquons ce soir à la découverte de ce Congo, de ses rapides, de ses pièges, mais aussi de son mythe.
France Culture, géographie à la carte, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et pour en parler, nous sommes en compagnie du géographe Roland Pourtier, professeur honoraire à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, président de l'Académie des sciences d'outre-mer, grand spécialiste de cette région d'Afrique. Il est l'auteur du livre « Congo, un fleuve à la puissance contrariée », c'est chez CNRS Éditions. C'est un livre dans lequel se trouve notamment une carte qu'il va nous commenter pour débuter.
Des flèches, un plan, des ronds et des points, c'est la carte introductive.
Et bonsoir Roland Pourtier.
Bonsoir.
Alors la carte que vous nous avez proposée, elle montre le bassin versant du fleuve Congo et disons-le tout net, il est immense.
Il est immense, oui. Et d'abord, il se situe au cœur de l'Afrique. Et ça a vraiment son importance parce que ce cœur de l'Afrique est situé en latitude équatoriale. Nous sommes donc dans la partie la plus arrosée du continent. Il n'y a pas de grandes montagnes très élevées, mais c'est quand même le château d'eau, le grand château d'eau de l'Afrique, qui déverse chaque année la moitié des eaux de surface de tout le continent. C'est quelque chose de considérable. Il y a déjà un sentiment de puissance, rien qu'à regarder ce bassin qui couvre entre 3 700 000 et 3 800 000 km², c'est-à-dire un ordre de grandeur qui est proche de ce que représente aujourd'hui l'Europe des 28. Donc c'est cette échelle déjà qu'il faut avoir en tête. C'est immense.
Et d'ailleurs, vous montrez bien à travers cette carte que on peut voir d'ailleurs sur Twitter ou sur notre site internet que ce bassin versant, il va quasiment d'un océan à l'autre, de l'océan Atlantique à l'océan Indien.
Voilà, ça c'est la deuxième caractéristique. Il est non seulement au centre de l'Afrique, sous l'équateur, mais entre l'océan Atlantique à l'ouest et l'océan Indien à l'est. Alors vous me direz, bon, ça n'a peut-être pas une très grande importance en soi, mais si. Et quand on étudie toute cette région, on se rend compte qu'il y a en permanence une tension entre l'est et l'ouest qui s'exprime sur le plan des circuits et des orientations économiques, sur le plan des relations politiques avec les voisins. C'est-à-dire que on dépasse là la dimension hydrographique naturellement et cela a des incidences sur le plan de la géopolitique africaine. Et actuellement, évidemment on y reviendra au cours de cet entretien, c'est l'Est qui a le vent en poupe. Les grands courants, les grands flux d'échanges se dirigent vers l'océan Indien parce que derrière l'océan Indien, il y a la Chine, l'Inde et d'autres puissances asiatiques qui aujourd'hui tirent le continent, alors que pendant très longtemps, il était orienté vers l'ouest, vers les puissances européennes qui avaient colonisé le continent au 19e siècle, à la fin du 19e siècle.
Alors vous l'avez dit, Roland Pourtier, on ne manque jamais d'eau dans cette région. Ça signifie que le fleuve Congo n'est jamais à sec, ne peut même jamais être à sec, parce qu'il y a toujours un endroit où il pleut dans l'un des affluents, sur l'un des affluents du fleuve Congo.
Ah ben oui, il ne peut pas être à sec, bien entendu.
Bien entendu qu'il ne peut pas être à sec, mais il pourrait avoir un niveau qui baisse.
Comme on dit dans les livres scolaires, il est à cheval sur l'équateur. Ça veut dire que les affluents de rive droite, ce qui se trouve au nord du fleuve, c'est-à-dire essentiellement l'Ubangi, la Sanga, pour ne citer que les principaux, sont de grands cours d'eau de l'hémisphère nord, avec un régime pluviométrique de l'hémisphère nord, et une crue qui a lieu durant l'été, durant notre été, au mois de juillet, août, etc. Alors qu'à l'inverse, les affluents de rive gauche, qui sont au sud, eh bien, ont un régime de pluie de l'hémisphère sud, avec des maximums en janvier, février, etc. Et donc tout ça se compense. Lorsqu'il y a des précipitations moindres dans l'hémisphère nord, c'est compensé par les précipitations de l'hémisphère sud, de telle sorte que le fleuve Congo a un régime relativement pondéré. Ça veut dire que la différence entre les hautes eaux et les basses eaux est de l'ordre de 1 à 3, ce qui est très peu pour un grand fleuve.
Alors on va voir que ça ne suffit pas à en faire un fleuve facile à utiliser, que ce soit pour la navigation comme pour l'hydroélectricité. Comparons-le au Nil, c'est le deuxième fleuve d'Afrique après le Nil. Est-ce que ces fleuves-là sont comparables ou sont-ils très différents, Roland Pourtier ?
Ah ben, je pense qu'ils ne sont pas comparables du tout, à aucun point de vue. Sur le plan simplement physique déjà, le Congo... décrit une très grande boucle. Il prend naissance aux frontières de la Zambie, se dirige vers le nord, et puis arrivé près de la ville de Kisangani, d'un seul coup, il tourne vers l'ouest, et ensuite redescend vers le sud pour se jeter dans l'Atlantique, près de Matadi, après un parcours de 4700 kilomètres. Et il reçoit de très très nombreux affluents, de telle sorte que son bassin a une forme relativement régulière. La carte le montre d'ailleurs. Les territoires qui concernent 9 États se disposent de part et d'autre de cette grande boucle en formant une sorte de grand cercle, de grand bassin. Alors que le Nil, c'est pas du tout ça. Le Nil, plus de 6000 kilomètres, est beaucoup plus grand, mais il a un tracé général du sud vers le nord, mais sans avoir un bassin très élargi. C'est un couloir, et il se termine en couloir. La partie la plus connue du Nil, qui est l'Égypte, bien sûr, c'est un couloir, c'est une oasis au milieu du désert. C'est donc extrêmement différent sur le plan physique, et avec des conséquences humaines considérables. Il n'y a pas du tout les mêmes incidences sur l'organisation des sociétés sur le Nil ou sur le Congo.
On a cru jusqu'en 1816, je crois, à l'expédition de Henry Morton Stanley, que la source du Nil se trouvait du côté du fleuve Congo. Et on a découvert évidemment que ça n'était pas le cas, Roland Pourtier.
Ah mais ça c'est une histoire tout à fait intéressante, la façon dont ce fleuve Congo a été découvert. Vous citez Stanley, mais enfin Stanley c'est l'aboutissement d'une très longue histoire dont je pense qu'il faut dire quelques mots, parce que ça a des conséquences sur les représentations qu'on se fait du Congo et sur les conditions politiques actuelles des territoires qui occupent son bassin.
Ce sont les Portugais.
Oui, ce qu'il faut bien voir, c'est que
les premiers Occidentaux
l'estuaire du fleuve a été atteint par des navigateurs portugais en 1482. Et je ne veux pas donner trop de dates, mais celle-ci me paraît importante. C'est 10 ans avant l'expédition de Christophe Colomb vers la découverte de l'Amérique. 10 ans avant. Et pour la première fois, les marins portugais découvrent un fleuve immense, en tout cas un estuaire immense. Ils n'en avaient jamais rencontré de tel dans leur navigation. Malheureusement, leurs navires, ayant parcouru à peu près 150 kilomètres, viennent buter sur des rapides. Mmh. Au lieu dit Matadi, qui est aujourd'hui le port de fond d'estuaire. Matadi, ça veut dire les pierres, le nom est bien choisi. Matadi, il y a des pierres qui obstruent le lit du fleuve. On peut pas passer, le fleuve est en quelque sorte verrouillé. 1482, Stanley, c'est la fin du 19e siècle. C'est-à-dire que entre la découverte de l'estuaire et la découverte de à peu près la totalité du cours du fleuve, il se sera écoulé 4 siècles. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Le fleuve Congo est un fleuve intérieur. Il ne débouche pas en quelque sorte sur l'Atlantique. Il s'arrête à là où se trouve aujourd'hui Brazzaville et Kinshasa. Alors bien entendu, le fleuve continue, mais il continue sous forme de rapides, de cataractes, etc., totalement infranchissable.
Donc il est comme verrouillé.
Il est totalement verrouillé. Il est totalement verrouillé. Et ce verrouillage de l'Afrique intérieure a eu des conséquences considérables sur le développement des sociétés, sur l'histoire de ces sociétés. Et cette histoire des sociétés a été intimement lié à l'histoire du monde. Parce qu'à partir de 1492, à partir de la découverte de l'Amérique, le monde entier se reconfigure. Et qu'est-ce qui va se passer progressivement à partir du XVIe siècle? C'est l'organisation de ce fameux trafic triangulaire. Ce qui intéresse les Européens, c'est l'or et l'argent de l'Amérique. Ils découvrent très vite qu'il y a un manque de main-d'œuvre pour travailler dans les mines ou ensuite dans d'autres exploitations de type agricole. Et pour se procurer cette main-d'œuvre qui manque en Amérique ou qui a été décimée par le contact avec les Européens, eh bien, on va se retourner vers l'Afrique, où l'esclavage est une tradition dans la plupart des sociétés, où les Africains vont être sollicités pour livrer des esclaves. Et c'est l'origine du trafic de traite qui va transporter des millions d'esclaves des côtes africaines, notamment des côtes du Congo, vers l'Amérique. Et ça va bloquer ce qu'on appelle aujourd'hui le développement, ça va bloquer le développement de ces régions-là qui étaient déjà à un niveau relativement intéressant en comparaison à ce qu'était l'Europe du XVe siècle. Lorsque les Portugais sont arrivés, 1482, ils ont rencontré des populations, ils ont demandé comment elles s'appelaient, etc. Et on les a appelés les Congos, des populations parlant une langue qu'on appelle le Kikongo, voilà. Et des populations organisées en un royaume. Et ce que découvrent les Européens, enfin les Portugais à l'époque, puis les Italiens, les Français, etc. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre une société très organisée, un royaume, le royaume de Congo. Et à la fin du XVe siècle, au début du XVIe siècle, ce royaume est décrit comme étant quelque chose qui ressemblait un petit peu au royaume de l'Europe de l'époque, hein, et avec une capitale, Mbanza Congo, ça veut dire la ville des Congos, hein, que les Portugais vont rebaptiser San Salvador pendant un certain temps.
Qui est aujourd'hui situé à quel endroit?
Aujourd'hui, ça se situe en Angola. Hein. Ce royaume de Congo se situe essentiellement au sud du fleuve. Il n'est pas sur le fleuve, hein, parce que cette partie du fleuve n'est de toute façon pas guère utilisable à cause des rapides. C'est au sud du fleuve que se trouve ce royaume de Congo. Il occupe une partie du nord de l'Angola actuelle. Et ce royaume de Congo est important. Il y a une ambassade déjà, des ambassades auprès de Lisbonne, de Rome, parce que les Européens vont commencer immédiatement la christianisation. Il y a une première christianisation de ce royaume de Congo qui laissera des traces. Et le premier évêque noir de l'histoire, le premier évêque africain noir de l'histoire, c'est un Congolais. Hein, le fils de roi, hein, Afonso Ier, et le fils de ce roi Congo a été le premier évêque consacré à Rome en 1519.
Roland Portier, vous avez évoqué le commerce triangulaire. Est-ce que le fleuve Congo a eu une importance dans ce commerce-là, ou est-ce que c'est simplement la région Congo? Est-ce que on peut considérer que le fleuve a été aussi une colonne vertébrale de la traite négrière?
Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, la partie inférieure du fleuve, on est quand même à 350 km de l'embouchure, hein, quand on se trouve dans ce qu'on appelle aujourd'hui le pool Malebo, c'est-à-dire cette expansion là du fleuve au niveau de Kinshasa et de Brazzaville. Donc là, il n'y a pas de trafic sur le fleuve. Le fleuve n'est pas utilisé pour...
Sauf pour traverser d'un côté à l'autre, d'aller de Brazzaville à Kinshasa.
Oui. Mais la partie du fleuve qui est utilisée pour le transport des esclaves, c'est la partie navigable du fleuve, c'est-à-dire en amont du pool Malebo.
Mais ça fait quand même 2500 kilomètres. Enfin, ça permet en fait d'aller très loin, voilà, dans les terres qui sont aujourd'hui les terres de la RDC.
Ce grand axe fluvial qui est le plus bel axe navigable de toute l'Afrique, qui remonte jusqu'à Bangui et même au-delà. Mais à Bangui, il y a les premiers rapides qui interrompent un peu la navigation. Mais on a là une coulée extraordinaire par laquelle les esclaves vont être transportés depuis les régions assez lointaines qui sont dans l'actuelle République centrafricaine jusque dans la région du Pool autour de Brazzaville, Kinshasa aujourd'hui, et de là à pied Voilà, on ne peut aller qu'à pied, par des sentiers, jusqu'à la côte où les navires négriers viennent les acheter.
Vous dites aussi que dans ce fleuve, quand il y a des conflits, c'est un fleuve qui charrie les corps.
C'est un fleuve qui charrie les corps parce que tout simplement, ben, il y a des corps à l'époque de Mobutu qui ont été défenestrés dans ce fleuve-là. Et c'est un fleuve qui est un animal, qui est une bête sauvage, parce que c'est un fleuve qui parfois est indomptable. Et donc pour moi, ce fleuve a ce paradoxe-là, c'est la splendeur, mais en même temps, c'est un monstre marin. Je pense que chaque année, il y a des naufrages dans ce fleuve-là. Et donc pour moi, je suis sûr et certain, dans le fleuve Congo, à l'intérieur de ce fleuve-là, il y a des grandes villes, des villes immenses, extraordinaires, et des gens vivent dans le fleuve. Parce que c'est paradoxal que ce fleuve ne soit pas habité.
Vous y voyez des boulevards ensoleillés par d'innombrables lampadaires, des restaurants, des salles de musculation, des bordels, des boulangeries. Bref, tout ce dont une ville cosmopolite peut se targuer. La population du fleuve, renchérissait le bonhomme, était aussi colossale que celle de toute l'Afrique tropicale réunie. C'est-à-dire, vous le voyez comme une ville, ce fleuve, une métropole.
Oui, pour moi, le fleuve, c'est vraiment une ville. Parce que je suis sûr et certain, tous ces gens qui meurent dans le fleuve, ils laissent quelque chose, une partie d'eux-mêmes. Donc pour moi, ce fleuve, c'est un pays. Ce fleuve, c'est un continent. Ce fleuve, c'est une planète.
Congolais Fiston Mwanza Mujila, interrogé par Zoé Varier en septembre 2020, qui imagine dans son livre une ville peuplée de tous les morts jetés dans le fleuve Congo par Mobutu. C'est une vision aussi surnaturelle du fleuve. On voit qu'on peut fantasmer au fond sur ce fleuve puissant, sanguinaire peut-être, qui charrie comme ça tout un tas de représentations. On peut remonter, puisqu'on discutait de la traite négrière, jusqu'à cette époque-là, Roland Pourtier.
Alors, je ne connaissais pas ce texte que je découvre, hein, mais qui me fait penser d'abord à Mami Wata. Parce que là on est dans quelque chose d'onirique, de magique. Le fleuve, évidemment, ne pouvait pas ne pas susciter l'imagination des riverains. Et comme il y a dans d'autres régions du monde des sirènes, il y a la sirène du fleuve. C'est ces Mami Wata qu'on représente souvent. On la dessine sur les murs des maisons, etc. On dessine beaucoup au Congo, en particulier au Congo Kinshasa. Et Mami Wata est une génie, la femme génie du fleuve, qui joue un très très grand rôle dans toutes les représentations, dans toutes les conceptions un peu mythiques qui se rattachent au fleuve, dans toutes les légendes qui se rattachent au fleuve. Et ce que cet auteur a décrit, cette ville souterraine, etc., nous renvoie à cette représentation de Mami Wata, qui peut être terrifiante parfois, qui peut être bienveillante dans d'autres moments, selon les circonstances. Et là, si on fait allusion à la période de Mobutu, à tous ces morts qui ont été jetés dans le fleuve, c'est qu'on a une analyse politique de la situation qui a été celle du Congo, qui s'appelait à l'époque le Zaïre, et où il y a eu à plusieurs reprises beaucoup de brutalité, mais je dois dire que les brutalités principales sont celles qui se déroulent aujourd'hui et depuis une trentaine d'années dans l'est du pays, c'est-à-dire aux marges orientales du bassin du Congo, et qui ont fait quelques millions de morts, mais ça n'a plus beaucoup de rapport avec le fleuve lui-même.
Alors les villes, il y a les villes imaginaires dont parlait Fiston Mwanza Mujila, il y a les villes réelles qui sont au bord du fleuve Congo, et les deux plus importantes, celles qu'on connaît le mieux ici, c'est Kinshasa et Brazzaville, deux villes qui sont deux capitales de deux pays et qui pourtant sont extrêmement proches. Est-ce que vous diriez, Roland Pourtier, que ce sont des villes sœurs, ou est-ce que ce sont simplement des villes qui sont de lointaines cousines?
Alors c'est effectivement un cas assez rare dans le monde de villes si proches, de capitales, de villes capitales d'État.
D'un côté la République démocratique du Congo et de l'autre côté le Congo Brazzaville.
C'est ça, les deux Congos. Et ces deux villes sont très proches puisqu'à l'endroit où elles sont le plus rapprochées, il n'y a guère que 2 kilomètres qui les séparent. Et elles sont à l'échelle des deux Congos. le Congo Kinshasa aujourd'hui s'approche de peut-être de 100 millions d'habitants, on ne sait pas trop, et la capitale doit compter dans les 10 millions d'habitants, Kinshasa. De l'autre côté, Brazzaville, c'est beaucoup plus petit, peut-être pas loin de 2 millions d'habitants, mais pour un pays qui n'en compte que 5 ou 6. Enfin, il y a des ordres de grandeur très différents. Et ces deux villes qui se font face et qui ont des relations extrêmement complexes et ambiguës depuis qu'elles existent, ces deux villes sont le fruit de l'histoire. Et ça, c'est intéressant de voir comment le Congo, le fleuve lui-même, est à l'origine de cette constitution de territoire d'État moderne.
Alors vous pouvez peut-être nous raconter justement comment finalement un bassin de population qui avait tout pour être cohérent au fond partagé artificiellement.
Oui, je vous reprends tout de suite. La cohérence est purement cartographique. On voit une carte, on a l'impression de quelque chose de très homogène, avec un chevelu de rivière, tout ça constitue un magnifique ensemble hydrographique. Il n'y a aucune cohérence humaine. J'y reviendrai. C'est un des problèmes politiques, d'ailleurs, de la gestion de ces territoires. Alors,
enfin, il y a une cohérence peut-être entre le côté Brazzaville et le côté Kinshasa.
Non, je ne crois pas. Alors, je reviens à cette explication. Comme je le disais d'emblée, pendant 4 siècles, l'intérieur du Congo est resté ignoré des Européens. C'était un monde fermé qui exportait des esclaves vers la côte. Voilà, c'est tout ce qu'on savait. On imaginait que peut-être il y avait un grand lac à l'intérieur et que le fleuve était l'exutoire de ce grand lac. C'est tout ce qu'on savait. Et c'est seulement au cours du 19e siècle que des explorateurs commencent à s'interroger. Mais qu'est-ce que c'est que ce fleuve? C'est un grand mystère. Il y a une énigme du Congo, de même qu'il y a une énigme des sources du Nil. Et les deux explorations, au fond, vers les sources du Nil et pour la découverte du Congo, vont de pair. Et c'est dans les années 1870-80 que se font les découvertes essentielles. Qu'est-ce que c'est que ces découvertes essentielles? Eh bien, c'est ce fameux Stanley dont vous parliez tout à l'heure, qui, à l'origine, est parti, envoyé par un journal américain, Herald Tribune, pour retrouver les traces de Livingstone, le grand explorateur Livingstone, dont on n'avait plus de nouvelles et qui était dans les régions qui sont actuellement occupées par la Zambie, disons, près du lac Tanganyika. Et Stanley part en expédition à partir de Zanzibar, parce qu'il n'est pas question de remonter le Congo, de l'embouchure du Congo, on ne sait pas trop où ça va déboucher. On part de Zanzibar et on sait qu'il y a un fleuve pas très loin d'ici que les commerçants arabes connaissent, et ils y ont installé des postes pour le trafic de l'ivoire et des esclaves. Et donc Stanley, avec des Zanzibarites, va en direction de l'ouest. Et à un moment donné, il arrive près du lac Tanganyika, et là, il rencontre l'émission de cette fameuse entrevue.
Célèbre phrase prononcée à cette époque-là.
Célèbre phrase.
Vous devez être...
Oui. Vous êtes sans doute... I presume. Bon. Voilà. Et donc, c'est cette rencontre fameuse. Et lorsque Stanley rentre en Europe et raconte cet événement, il devient un personnage assez important. Et il obtient des subsides pour repartir, pour faire une exploration de ce fleuve dont on ne sait pas très bien s'il se rattache au Nil ou si c'est un autre fleuve. Et pendant 3 ans, toujours pareil, il part de Zanzibar, il arrive sur ce fameux fleuve où les commerçants arabes sont déjà installés et qu'on appelle le Lualaba. Ça vient, disons, du pays des Luba, les populations Luba qui vivent dans la région. Le Lualaba. Donc, il descend ce Lualaba du sud vers le nord et arrivé à Kisangani, il se rend compte qu'il tourne vers l'ouest, ça ne peut pas être, bien entendu, le Nil. Le Nil, de toute façon, on venait de découvrir qu'il sortait du lac Victoria, bien au-dessus, en altitude, du Lualaba. Et donc, à partir de Kisangani, il continue la descente du fleuve jusqu'à rejoindre l'Atlantique.
Alors, on va pas pouvoir raconter toute l'histoire de l'exploration.
Mais c'est très important, parce que cette expédition, rentrée en Angleterre, Stanley... qui entre-temps est devenu américain, mais enfin il est d'origine anglaise, Stanley a un très très gros succès et aussi un très gros succès d'édition. Il raconte son histoire et ça a beaucoup de répercussions, surtout sur le monde des explorateurs. Et dans ce monde des explorateurs, il y en a un qui compte beaucoup et qui s'appelle Brazza. Et Savorgnan de Brazza, à peu près en même temps que Stanley, est en train de faire l'exploration du fleuve Ogoué.
Donc Brazza, qui a donné son nom à Brazzaville, c'est-à-dire au Congo, qui a été colonisé par la France, parce que Brazza était italien, mais naturalisé français.
Brazza était naturalisé français. Brazza a fait l'exploration du fleuve Ogoué, et c'est autour de ce fleuve Ogoué que s'est constitué l'actuel Gabon. Et en remontant le fleuve Ogoué, il s'est rapproché du Congo. Et à un moment donné, il a compris qu'en continuant, en traversant des plateaux qu'on appelle les plateaux Bateke, il rejoindrait le Congo. C'est ce qu'il a fait en 1880. En 1880, il arrive sur les rives de ce que Stanley avait appelé le Stanley Pool, qu'on appelle aujourd'hui le Pool Malebo. Il crée un poste avec le drapeau français. On l'appellera très rapidement Brazzaville. L'année suivante, Stanley, qui s'est mis au service du roi des Belges, crée le poste en face du futur Brazzaville. Il crée un poste qu'il appelle Léopoldville.
Oui. Alors, avançons un petit peu dans le temps. Aujourd'hui, comment est-ce que ça communique entre ces deux villes? Laquelle est finalement la plus dynamique? Est-ce qu'on peut passer facilement de l'une à l'autre, Roland Pourtier?
On peut passer facilement de l'une à l'autre, sauf s'il y a des problèmes politiques, ça arrive de temps en temps. Mais sinon, il y a deux types de trafic. Il y a un trafic tout à fait ordinaire et officiel, traversé par ferry ou maintenant par canot rapide. Mais le plus courant, c'est le ferry qui charge les passagers des voitures, etc. Et bon,
par pirogue aussi.
Et puis il y a évidemment des milliers de pirogues. Le fleuve Congo, comme tous les fleuves africains, c'est un fleuve qui est parcouru par des pirogues. Enfin, c'est une région où chaque habitant a sa pirogue. Hein. Déjà, les enfants commencent à apprendre à pagayer avec des petites pirogues. Et après, tout le monde a sa pirogue dans les zones rurales. Et même en ville, il y a une très grande quantité. Il y a des milliers de pirogues qui traversent le fleuve sans arrêt, de jour et de nuit, avec des trafics souvent clandestins, on échappe au contrôle douanier, etc. Hein. Donc il y a un double trafic, un trafic officiel et un trafic marginal, clandestin, en pirogue, qui crée des liaisons constantes entre les deux villes, et des liaisons constantes sur le plan économique, parce que Brazzaville est très dépendant de l'approvisionnement alimentaire qui vient du Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa produit beaucoup plus que le Congo-Brazzaville. Et donc, il y a des marchés de manioc sur les berges du Congo à Brazzaville. Tout ça, ça vient du Congo-Kinshasa.
Alors, pourquoi n'y a-t-il pas tout simplement un pont qui relie ces deux villes qui sont quand même immenses.
Vous allez vite en besogne, vous avez sauté toutes les étapes. Là. Le pont, c'est ce qui viendra à la fin. Il n'y a pas de pont. Parce que jusqu'à présent, c'était quand même des travaux considérables pour jeter un pont, même sur la partie qui est relativement étroite. Et on discute de ce pont depuis 100 ans. Hein. Évidemment, les Français à Brazzaville, les Belges à Léopoldville, ils traversaient, ils se rencontraient sans arrêt. Et puis le désenclavement de cette région s'est fait précocement du côté belge, c'est-à-dire que les Belges ont construit un chemin de fer entre Léopoldville et Kinshasa et le port de Matadi. Dès 1898, donc en 1898, on arrive en bateau jusqu'à Matadi, on prend le train et on arrive à Léopoldville. Mais du côté Brazzaville, il faudra attendre 1934. Donc pendant plus de 30 ans, tout l'approvisionnement de Brazzaville s'est fait nécessairement en passant par le Congo belge. Donc là, il y avait des relations économiques étroites. Brazzaville était totalement dépendant de ce qui arrivait par la voie verte, par le chemin de fer belge. Bon, ça s'est rééquilibré avec la construction du fameux CFCO, le chemin de fer Congo-Océan, qui a désenclavé Brazzaville tout en créant le port de Pointe-Noire. Donc aujourd'hui, il y a un double approvisionnement depuis l'Atlantique. Mais il n'empêche que pour les productions locales, agricoles, les échanges sont importants, et en particulier à sens unique, parce que ça vient essentiellement du Congo-Kinshasa vers le Congo-Brazzaville.
Ce n'est qu'au bout de plus de 30 jours que je découvris l'embouchure du grand fleuve. L'immobilité altière de la forêt originelle s'étendait alors devant mes yeux. L'herbe drue, la vase, la muraille de végétaux tressés qui s'élevait plus haut que l'enceinte d'un temple, le grand fleuve. Tout cela était grand, patient, muet. Une falaise rocheuse parut, des monceaux de déblais près de la berge, des maisons sur une colline, d'autres au toit de tôle parmi des terrains vagues bouleversés par des excavations ou accrochés à la pente. Le bruit incessant des rapides en amont planait au-dessus de cette scène de dévastation habitée. Des hommes en foule, noirs et nus pour la plupart, allaient et venaient comme des fourmis. Un soleil aveuglant noyait par moments tout cela dans une brusque recrudescence de lumière insoutenable. Je me demandais si le visage impassible de cette immensité qui nous regardait exprimait une invite ou une menace. Mon attention se porta sur trois édifices de bois d'allure militaire sur la pente rocheuse. C'était le poste de la compagnie.
France Culture, géographie à la carte. Mathieu Guérin.
Je ne pouvais pas faire une émission sur le Congo sans passer un extrait d'Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, lui ici, par Guillaume Gallienne, Roland Pourtier. Qu'est-ce qui vous inspire, vous, ce livre qui a beaucoup fait pour l'imaginaire qu'on a ici du Congo et plus généralement qu'on a en Occident du Congo ?
Ben, je pense que c'est un livre fondamental pour comprendre la situation du Congo. Ce livre a été écrit en 1909, je crois. Et c'est une époque qui est une époque terrible. Hein. Ça fait suite déjà à une campagne en Europe et aux États-Unis contre l'exploitation brutale des populations congolaises pour l'exploitation du caoutchouc. Mmh. C'est l'époque où l'Europe, les États-Unis ont besoin de caoutchouc pour l'industrie automobile naissante et on contraint les populations à aller ramasser du caoutchouc dans les forêts. C'est du caoutchouc naturel, hein, c'est pas des plantations d'EVA, ça viendra plus tard. Et ça, c'est terrible. Hein, c'est terrible parce que ils doivent fournir tant de quantités de caoutchouc, les ramasser dans la forêt, on s'expose à des quantités de dangers, de maladies, etc. Et ça se fait avec une grande brutalité, et en particulier, il y a ce fameux épisode des mains coupées, oui. Où s'il y avait des récalcitrants, des gens qui ne voulaient pas aller ramasser le caoutchouc, on envoyait la force publique, et la force publique châtiait ces populations, et pour prouver qu'il l'avait fait, il coupait une main, et il ramenait une main à leur capita, etc. Et donc, il y a eu cet épisode terrible, hein, des mains coupées, sur lequel on a beaucoup écrit, je pense, en exagérant énormément aussi, mais sans minimiser les atrocités. C'est une période terrible pour le Congo, une période d'effondrement démographique aussi, parce que les gens...
À cause des maladies aussi.
À cause des maladies. Ils étaient déplacés, etc. C'est des populations souvent fragiles, avec des épidémies de maladies du sommeil, de variole, etc. Il y a eu une hécatombe démographique dans ces années du début, de la fin du 19e, début du 20e siècle. Et un certain nombre d'observateurs ont tiré le signal d'alarme. Et il y a eu des publications, des rapports et des publications. Morel, par exemple, a publié le caoutchouc rouge. Mark Twain a publié en 1906, quelque chose comme ça, le soliloque du roi Léopold. Même Conan Doyle a écrit les drames du Congo, le drame du Congo belge. Et donc c'est dans la poursuite de cette littérature qui condamne l'exploitation coloniale qu'écrit Conrad. Et alors cette remontée du fleuve, Marlowe qui remonte le fleuve et qui arrive jusqu'à chez Kurtz. Kurtz, c'est Apocalypse Now qui a repris toute cette histoire. Kurtz est un négociant en ivoire qui est sur le fleuve, complètement isolé, devenu à peu près fou. Et quand on arrive chez lui, il y a des têtes, des crânes plantés comme formant une allée jusqu'à sa case. C'est quelque chose de terrifiant. Donc le livre de Conrad rend bien cette ambiance de terreur qu'il y a eu à l'époque. On est vraiment dans les ténèbres, dans un milieu où les gens sont devenus fous, où l'administration n'a pas pris encore ses marques, où n'importe quel aventurier ou débile venu d'Europe peut venir tenter fortune sans qu'il y ait aucune limite. Vous voyez, l'administration s'imposera progressivement, mais là on est dans une période où on fait un peu n'importe quoi et au détriment des populations locales qui ont énormément souffert.
Alors les populations locales, parlons-en justement un petit peu, vous expliquez qu'il y a des gens du fleuve, des peuples du fleuve qui sont différents les uns des autres. Évidemment, le fleuve est très long, ce qui fait que on y vit de façon très différente en fonction des endroits. On vit soit dans la savane, soit dans la ville, soit dans les forêts. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces différentes manières d'habiter les rives du fleuve ?
Alors, la première chose que je dois dire, c'est que le fleuve Congo, n'est pas un axe de peuplement. Et quand on dresse des cartes démographiques de répartition de la population, on le voit très bien. C'est une caractéristique notamment du Congo-Kinshasa. Les populations les plus denses sont sur les périphéries du territoire. Elles ne sont pas le long du fleuve. Si bien que le fleuve n'est pas du tout la colonne vertébrale, comme on le dit, du territoire, parce qu'il n'est pas peuplé. Il y a des villes, quelques villes qui le jalonnent, mais il n'y a pas beaucoup de peuplement le long du fleuve lui-même. Il n'empêche que c'est le fleuve qui permet malgré tout la liaison entre les différentes parties du pays. Et là, plusieurs groupes de population se répartissent dans l'espace avec des implantations, notamment des implantations urbaines, sur le fleuve. Ces populations, bon, les ethnologues qui raffinent vont vous dire qu'il y en a au moins une centaine de groupes différents qu'on peut rencontrer sur tout le long du fleuve, en remontant jusqu'aux sources. En réalité, elles se regroupent en quelques grands ensembles. Vous avez d'abord le bloc Congo. Alors, on le connaît bien depuis le 15e siècle, les Congos qui habitent dans la partie inférieure du fleuve, et jusqu'à Kinshasa. Donc ça forme un premier ensemble avec une langue, une langue commune, le Kikongo, qui est parlé aussi bien du côté de Brazzaville que du côté de Kinshasa, et qui a hérité de cette première christianisation ancienne, et qui a des traditions tout à fait particulières, où on les retrouve très, très, très impliquées aujourd'hui dans la vie religieuse. Ensuite, vous avez tout un ensemble de populations assez diverses, mais dont les échanges le long du fleuve ont permis la création d'une langue commune. Donc cette langue commune, c'est le Lingala, c'est la langue d'échange du fleuve entre Kinshasa et au fond jusqu'à Kisangani, des groupes extrêmement divers, dont les Bateke par exemple, ou les Mboshi plus au nord, et ils se comprennent, c'est une langue d'intercompréhension.
Mais vous racontez que, je vais un peu plus vite, il y a des différentes manières d'habiter qui créent des différentes organisations politiques et sociales. Vous expliquez comment, quand on vit dans la forêt, on n'a pas la même façon de se nourrir, par exemple, que quand on vit dans la savane, et qu'il y a d'un côté les habitudes des greniers et de l'autre côté les habitudes des paniers, et que des organisations politiques qui sont différentes. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, mais peut-être rapidement, c'est difficile de résumer cela.
Non, mais vous avez raison, c'est une opposition que j'ai développée depuis très longtemps entre l'Afrique des paniers et l'Afrique des greniers. Quand vous êtes dans la forêt, vous voyez des villages, des cases d'habitation, etc., il n'y a pas de grenier. Il n'y a pas de grenier tout simplement parce qu'on ne conserve pas la nourriture, parce qu'on va la prélever au fur et à mesure des besoins, plusieurs fois par semaine, c'est le travail des femmes, on va ramasser le manioc ou récolter les bananes. Donc manioc, banane, ça ne se conserve pas, il n'y a pas de grenier et on consomme un peu au jour le jour. Et donc, ce sont des sociétés qui n'ont pas l'habitude de prévoir, de conserver, de prévoir et de gérer le futur. Donc, c'est que des sociétés qui vivent un peu dans le présent, qui n'ont pas de prédisposition à s'organiser en ensemble politique un peu étendu, parce que chacun vit de manière à peu près autonome, à peu près indépendante dans les villages. Les échanges, c'est des échanges pour avoir des femmes, hein, mais pas pour avoir des biens. Chacun produit la même chose. En revanche, dans les régions de savane, et ça concerne une partie du Congo notamment, du Congo Kinshasa, dans les régions de savane, mais c'est surtout l'Afrique de l'Ouest, hein, où on cultive des céréales, là, que ce soit, alors il n'y avait pas beaucoup de blé autrefois, mais le maïs est venu d'Amérique, aujourd'hui on cultive des céréales. Là où on cultive des céréales, le mil, qui est la céréale ancienne, il y a des greniers, on conserve sur l'année, et à ce moment-là, ça crée des sociétés avec un pouvoir gestionnaire.
Parce qu'il faut s'organiser en commun pour s'occuper de ces greniers-là.
Il faut qu'il y ait une autorité qui puisse dire, là, il y a un grenier, on n'y touche pas, c'est les semences pour l'année suivante. Voilà, et c'est moi le chef, et vous n'y toucherez pas. Et les femmes, elles gèrent des greniers pour la vie quotidienne, etc., etc. Donc, il y a toutes les conditions sont réunies pour que des formations politiques importantes s'organisent. Ça permet aussi à un pouvoir politique fort de prélever un tribut. Parce qu'il y a des réserves alimentaires dans les villages, et bien on va prélever une partie de ces réserves pour permettre la nourriture d'une armée, etc., et de faire en sorte que des gens vivent en ville, hein, grâce à ce système de production qui permet d'avoir des réserves alimentaires, une conservation. Dès que vous conservez, vous préservez et vous avez une vision d'avenir, et donc ça crée des conditions politiques différentes.
La région ouest du Congo, polarisée par le centre industriel de Kinshasa, voit sa base renforcée par l'aménagement du site Dinga, opération gigantesque à la taille du pays. À Inga, le fleuve Congo forme une énorme boucle autour d'un saillant rocheux au sortir duquel il se précipite en chute d'une hauteur d'une centaine de mètres. Il s'agit là d'un site unique au monde qui, aménagé, permettra d'offrir de l'énergie à très bas prix, entre 1 et 2 centimes le kilowattheure. Ce barrage réalisé par tranche pourra, lorsqu'il sera terminé vers 1984, fournir une puissance de quelque 240 milliards de kilowattheure, c'est-à-dire supérieure aux productions de l'Allemagne, du Benelux, de la France, de l'Italie, de la Suisse, du Danemark, de la Grèce, de l'Irlande, du Portugal et de la Turquie réunies.
Un reportage de Didier Hadès en 1971 dans Géographie à la carte et qui montre bien l'enthousiasme de ces années 70 concernant le développement de l'hydroélectricité sur le Congo. Roland Pourtier, on a dit c'est un fleuve qui a un débit gigantesque puisque c'est le deuxième plus gros débit mondial après le fleuve Amazonie. Est-ce que cette puissance-là a été utilisée finalement pour le développement de la région? Ça pourrait être à la fois du côté RDC comme du côté de la République du Congo. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, nous dire si on utilise et comment cette puissance du fleuve?
Oui, alors là, ce que j'ai entendu, c'est extraordinaire, on est en plein délire. Hein. Il est vrai qu'il y a une puissance potentielle, mais ça, c'est le discours. Et un discours récurrent dans toute cette région, c'est « nous sommes un pays potentiellement riche, car nous avons le fleuve, la forêt, les mines, etc. Et » et ensuite, on leur répond « oui, d'accord, mais vous êtes les pays les plus pauvres du monde ». Il y a un paradoxe énorme entre cette potentialité, notamment celle du fleuve, et la réalité. Alors Inga, alors c'est vrai.
Donc Inga c'est cette zone au fond où il y a à la fois un lac et puis des possibilités d'aménagement.
Oui, enfin
parce qu'il y a des rapides où on pourrait faire des barrages. Enfin, il y a déjà des barrages, mais on pourrait en faire peut-être davantage.
Inga, c'est une série de rapides, comme ça a été bien dit, à un endroit où le débit est de 40 000 mètres cubes secondes sur un dénivelé de 100 mètres. C'est-à-dire que c'est deux fois la puissance des trois gorges sur le Yangtze. C'est le site le plus puissant au monde. Mais c'est un travail prométhéen pour aménager ce site. Depuis 100 ans, on étudie. Les ingénieurs sont enthousiastes. Depuis 100 ans, il y a des études, des rapports, etc., des projets pour aménager ce site d'Inga. Alors, on a commencé petit. dans les années 80, 1980, 70-80, sous Mobutu, avec deux barrages, Inga 1 et Inga 2, dont le cumul arrive à 1700-1800 kWh. Et l'aménagement du site, c'est 40 000. Hein, donc c'est quelque chose.
C'est l'équivalent de
40 000 mégawatts.
Beaucoup de centrales nucléaires, peut-être. Une dizaine de réacteurs nucléaires.
Oui, mais c'est
l'équivalent d'une dizaine de réacteurs nucléaires.
Et le discours, c'est de dire avec ça, on peut illuminer l'Afrique. Enfin bon, mais c'est pratiquement impossible à réaliser parce que ça demande ça demanderait des sommes colossales, des investissements énormes et que les Congolais n'ont pas, bien entendu, les ressources. Il faut faire appel à des ressources extérieures. Hein. Et on a jusqu'à présent pas réussi à aller au-delà de ces deux petites centrales qui d'ailleurs ne marchent qu'à la moitié de leur capacité parce que c'est mal entretenu. Actuellement, il y a des négociations qui semblent assez avancées pour construire ce qu'on appelle Inga 3, qui aurait une puissance installée qui irait peut-être jusqu'à 10 000 mégawatts, en tout cas entre 4 000 et 10 000 mégawatts selon les projets. C'est déjà beaucoup, mais on n'arrive pas. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des sociétés pressenties, chinoises, aujourd'hui ce sont les Chinois qui mènent la danse, ou espagnols, ou autres, ou français, ou etc. Enfin, les Français sont plus tellement dans le coup. À chaque fois, pour une raison ou une autre, les projets échouent. Mm-hmm. Hein, on abandonne. Et on recommence à chercher des financeurs en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Australie, un peu partout, parce que ces projets sont couplés avec des entreprises industrielles de transformation, d'électrométallurgie, etc. Et on bute toujours sur l'incapacité de trouver des investisseurs parce que le pays ne présente pas une sécurité politique suffisante.
Et donc l'intervention, vous le disiez, de la Chine, qui est un acteur qui a des visées aussi géopolitiques et pas seulement économiques, ne suffit pas pour l'instant à construire ce nouveau barrage qui permettrait un développement accéléré de la région ?
Pour l'instant, ça ne suffit pas. Hein. Ça ne suffit pas. Ça viendra peut-être, en tout cas pas pour l'aménagement global du site, pas pour les 40 000 mégawatts, mais pour peut-être les quelques milliers, ou peut-être au mieux 10 000 mégawatts. Peut-être que dans quelques années, on commencera les travaux. Mais c'est sans arrêt remis en question. C'est des négociations qui durent, qui sont très compliquées. Vous savez, la Chine, elle est devenue le premier partenaire économique de beaucoup de pays d'Afrique, y compris les deux Congos. Mais qu'est-ce qu'elle fait au Congo-Kinshasa ? Elle vient essentiellement pour prélever des matières premières minières dont elle a besoin, en particulier le cobalt. Hein, le cobalt, le cuivre accessoirement et d'autres, le coltan, les colombo-tantalites, etc., et d'autres minerais, mais c'est surtout ça qui l'intéresse. Maintenant, des gros investissements comme pour Inga, ça se chiffre à une quinzaine de milliards de dollars pour faire ces aménagements. Ça n'est pas si évident que cela.
Et mais en même temps, ça pourrait vraiment changer la face de toute l'économie de la région.
Ça pourrait changer à la face, sauf que c'est toujours la même histoire. On a une vision par le haut des choses. Alors, si on produit beaucoup d'électricité, qu'est-ce qu'on en fait ? L'électricité qui est produite par les premiers barrages, Inga 1 et Inga 2, elle a été transportée par une ligne extraordinaire de 1700 km depuis Inga jusqu'aux mines du Katanga, en passant au-dessus de la forêt, en passant au-dessus des villes, sans qu'il y ait de retombées, il n'y a pas de transformateur.
On ne peut pas se brancher sur ces lignes-là.
On ne peut pas utiliser ce courant, parce qu'il faut le transformer en courant alternatif, ça n'est pas fait. Et donc la ligne est complètement étrangère, elle va directement dans les mines du Katanga, et c'est une vision politique de l'aménagement du territoire, mais qui est complètement opposée à la rationalité économique.
Quelques engagements ont été pris de façon informelle, mais nous attendons que cela se concrétise. Et le premier ballon d'essai, pour moi, c'est ici. Et je n'ai toujours pas, à ce stade, entendu ici à l'UICN parler du bassin du Congo et encore moins de sa biodiversité. Et nous avons ces tourbières qui sont une bombe à retardement. 31 milliards de tonnes de séquestration de dioxyde de carbone, 4 ans d'émissions de la planète de gaz à effet de serre, 15 à 20 ans des États-Unis. Donc vous comprendrez que je puisse marteler et revenir là-dessus parce que nous sommes dans l'année de l'urgence climatique décrétée par les Nations Unies et même là, je n'ai pas entendu, même dans la bouche même du secrétaire général des Nations Unies, le mot bassin du Congo.
C'était Arlette Soudan-No, qui est ministre de l'Environnement, du Développement Durable et du bassin du Congo en RDC, interrogée en 2021. Quels sont les défis écologiques qui se posent au fleuve Congo quand on parle du développement économique, de la construction de barrages? On parle évidemment de méthodes qui peuvent avoir un impact écologique négatif. Qu'est-ce que vous diriez, vous, sur le fait que cet endroit-là est tout de même une réserve de biodiversité très importante? Est-ce qu'il faut préserver cet endroit, et précisément peut-être au détriment d'un certain développement économique? Roland Pourtier.
D'abord, ce que disait cette ministre est tout à fait juste. Hein. On ne s'intéresse pas suffisamment à la dimension écologique. Hein. Les forêts du bassin du Congo représentent le deuxième grand ensemble de forêts tropicales au monde après la forêt d'Amazonie. C'est donc, comme on dit, le deuxième poumon de la planète. Et il y a là une ressource essentielle pour l'avenir de l'humanité. Et je pense que le bassin du Congo est appelé à jouer un rôle important, à condition qu'il change radicalement de modèle économique. Actuellement, le modèle économique, il est dominé par l'extraction des ressources minières qui sont exportées à l'état brut sans que les pays en profitent beaucoup, puisqu'il n'y a pas de valeur ajoutée. La chaîne des valeurs, elle est très courte. Bon, on exporte du produit brut. En revanche, on néglige ce que représente ce capital extraordinaire de forêt. C'est un puits de carbone extraordinaire. Mmh. Hein. Et donc ça, c'est pour l'avenir une ressource qui est fondamentale.
Est-ce qu'il y a de la déforestation, beaucoup, comme il y en a en Amazonie?
Non, il n'y a pas. Bon, actuellement, il y a plusieurs situations. Il y a des situations où il n'y a pas de déforestation. C'est le cas du Gabon et d'une partie du Congo Brazzaville. En revanche, il y a un taux de déforestation qui commence à être inquiétant au Congo Kinshasa. Pourquoi? C'est pas du tout les forestiers ce sont les paysans. Hein, parce qu'il y a une croissance démographique complètement incontrôlée, ingérable, qui est un risque énorme pour l'avenir de ces pays. Et évidemment, les populations essentiellement rurales pratiquent l'agriculture sur brûlis, et vont donc brûler la forêt pour avoir des terres agricoles. Et donc, il y a une déforestation qui a lieu sous l'effet de ces défrichements des populations, et la forêt recule, et avec des taux de recul qui commencent à être un petit peu inquiétants dans certaines régions du Congo Kinshasa. C'est pas encore catastrophique, mais il faudrait vraiment prendre des mesures de précaution actuellement pour que on réduise les effets de ces défrichements en passant à d'autres formes d'agriculture un petit peu plus intensives, mais toujours une agriculture paysanne, pas du tout des grands projets comme on a essayé de le faire, qui ont toujours été des catastrophes. Mais c'est vrai que le capital du futur pour le bassin du Congo, c'est la forêt. C'est la forêt parce qu'à l'échelle de la planète, c'est une des grandes réserves dans tous les programmes de lutte contre les gaz à effet de serre. C'est une réserve de carbone et c'est aussi une énorme réserve de biodiversité. Une biodiversité extraordinaire et qu'il convient de préserver.
Mais en effet, est-ce que ça peut être à même de donner à la fois à manger et du travail à cette population qui, en effet, augmente de façon exponentielle, Roland Pourtier?
Ben oui, mais on est vraiment en présence de grands défis pour les années qui viennent. Et là, la transition écologique, pour moi, devient une nécessité. Et c'est très difficile de passer d'une économie extractive à une économie fondée sur les ressources de la forêt et sur la préservation des ressources de la forêt, parce qu'il faut bien que les populations vivent naturellement, mais il y a tout un secteur de l'économie qui peut se développer à partir de la protection de la forêt, de sa valorisation, de l'exploitation, enfin de l'exploitation, de la mise en valeur à des fins touristiques aussi, c'est possible. Et il y a donc tout un état d'esprit à changer, une vision écologique qui n'est pas du tout dans l'état d'esprit des responsables, quel que soit le pays de la région.
Alors, l'or bleu que constitue l'eau du Congo, et pas seulement convoité pour sa puissance électrique potentielle, mais aussi pour son eau dans une région au sens large où le réchauffement climatique et l'explosion démographique, on en parlait Roland Pourtier, mettent les ressources en eau sous tension. Il y a aussi des projets de déviation simplement pour récupérer l'eau potable dans divers endroits de l'Afrique. L'eau du Congo est convoitée, Roland Pourtier ?
Oui, alors aujourd'hui, on parle beaucoup de l'or bleu, en particulier le président Sassou Nguesso, on a fait un de ses chevaux de bataille. Bon, l'or bleu à côté de l'or vert, enfin, c'est les ressources du futur. Et effectivement, le bassin du Congo, c'est une énorme ressource en eau, alors qu'une partie de l'Afrique souffre de stress hydrique, de manque en eau. Et il y a, de fait, un projet de dérivation d'une partie des eaux du bassin du Congo vers le lac Tchad. Car le lac Tchad a connu des périodes assez difficiles où le lac est passé de 25 000 km² à 5 000 km² en eau vive. Et donc, on s'est inquiété. Les pays riverains du lac Tchad se sont inquiétés des menaces, non pas de disparition, il ne va pas disparaître le lac Tchad, mais disons d'appauvrissement parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau. Mmh. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des cycles et que l'eau revient un petit peu aujourd'hui. Mais malgré tout, ces projets ont été élaborés depuis plusieurs décennies, qui consistent à transférer une partie des eaux des affluents du nord du bassin du Congo par le Chari pour rejoindre le lac Tchad et ainsi le réapprovisionner en eau. Mmh. Ces projets existent. Ils ont suscité des réactions extrêmement vives de la part des autorités congolaises en disant jamais nous ne nous
accepterons. Il y a un aspect nationaliste et un rapport fier tout de même, qui est très logique et très compréhensible par rapport à cet immense fleuve Congo de la part des habitants et des élites de la RDC.
Mais c'est tout à fait exact, n'est-ce pas ? Il y a des discours assez récents où ils disent c'est notre eau et nous, on ne la laissera pas partir, elle est à nous. Nous sommes propriétaires de l'eau. Les ministres qui disent ça, nous sommes propriétaires de l'eau. Alors pour avoir une coopération régionale dans ces conditions, c'est pas tellement facile. Mais comme vous dites justement, le fleuve lui-même contribue beaucoup à la prise de conscience d'une identité congolaise. On est les fils du fleuve. Mmh. Même si le fleuve lui-même n'est pas un grand axe d'aménagement parce qu'il est à peu près vide, c'est quand même la représentation de quelque chose qui réunit les différentes populations qui vivent dans toute cette partie de l'Afrique. Il y a une très très forte représentation du fleuve. Et en dépit des guerres régionales, des tensions politiques, etc., on se rattache tous à cette idée de la grandeur du fleuve. Hein,
Mais c'est surtout en RDC ou c'est...
Oui, surtout en RDC.
Aussi, parce que finalement, le fleuve Congo, il est dominé, contrôlé par la République démocratique du Congo davantage que par les autres pays.
Bah écoutez, la RDC, c'est plus de 60% de la superficie du bassin. Donc c'est quand même l'essentiel. Les autres, le Congo Brazzaville, c'est 6% seulement. Hein. Bon, alors il y a la Centrafrique, l'Angola, etc. Mais c'est le cœur, c'est quand même la République démocratique du Congo. Et ce fleuve, c'est un peu le symbole aussi de l'unité. Et à l'époque de Mobutu. Alors, il l'avait rebaptisé Zaïre. Hein. À l'époque de Mobutu, tous les matins à la télévision, il y avait la voix de Mobutu. Il disait lorsque le soleil se lève sur le majestueux fleuve Zaïre, etc., etc. Enfin, la gloire du pays était liée à la puissance et à la grandeur du fleuve. Et ce que j'ai voulu montrer dans mon livre, c'est que cette puissance très réelle en termes physiques, elle avait été contrariée à la fois par les rapides hein, qui empêchent l'ouverture du fleuve sur l'océan et par les déficiences de l'organisation politique, de la gouvernance du pays qui n'a pas permis d'exploiter ses potentialités.
C'est vrai que vous le développez très largement, Roland Pourtier, dans votre livre « Congo, un fleuve à la puissance contrariée », ces thèmes politiques qui sont très importants pour comprendre aujourd'hui à la fois la RDC et puis aussi les pays riverains de ce grand fleuve Congo. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce soir. Je rappelle donc une nouvelle fois le titre de votre livre « Congo, un fleuve à la puissance contrariée », c'est chez CNRS Éditions.
C'est moi qui vous remercie.
On se quitte avec quelques mesures de la 14e chanson de Jade du rappeur belgo-congolais Damso. C'était Géographie à la carte. Jean-Christophe Francis, Anne-Vanessa Prévost, Mathieu Garrigou-Lagrange, Grégory Wallon et Ruben Carmazine.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Sanctions économiques, restrictions sur le commerce, mesures de rétorsion, une histoire des guerres économiques.
Xavier Mauduit.
De Bruges à Lubeck, il y a du rififi chez les marchands de la Hanse et c'est un embargo à Cuba pendant la guerre froide. Lors des conflits, à côté des canons, l'économie participe à la stratégie. C'est le blocus continental de Napoléon et c'est ruiner l'Allemagne pendant la Grande Guerre, l'économie comme champ de bataille.
Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Les enjeux, chaque matin, un double regard avec nos invités.
Baptiste Muckensturm.
D'abord en France, l'actualité vue des territoires. On examine les questions locales, leur résonance nationale, et puis les événements à l'étranger, compris dans une perspective historique avec une analyse géopolitique.
Les enjeux, du lundi au vendredi à 6h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
La semaine prochaine dans Géographie à la carte, nous évoquerons l'évolution de la démographie mondiale et en particulier chinoise. Mais tout de suite, eh bien, c'est le retour des informations sur France Culture. Avec le journal de 22h qui est présenté ce soir par Diane Berger. Bonsoir Diane.
Bonsoir Mathieu Garrigou-Lagrange, bonsoir à tous. Nous irons en Syrie au début de ce journal. 4 jours après le tremblement de terre meurtrier, l'aide humanitaire peine à arriver. Volodymyr Zelensky plaide la cause de son pays à Bruxelles. L'Union européenne et l'Ukraine mettent en scène leur rapprochement. Nous en parlerons avec notre invitée Marie Dumoulin, spécialiste de la diplomatie européenne, dans quelques instants. À l'Assemblée nationale, les députés socialistes font voter une proposition de loi pour éviter le démembrement d'EDF et une amende record pour C8. L'ARCOM sanctionne la chaîne et Cyril Hanouna après des insultes à l'antenne contre le député Louis Boyard. 4 jours après le séisme, le bilan ne cesse de monter en Turquie et en Syrie. Il dépasse désormais les 20 000 morts. Côté turc, l'aide humanitaire se déploie, non sans difficulté, mais